France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
Il y a déjà eu des colères de policiers, de femmes policiers d'ailleurs surtout, puisque la grève est impossible dans ces métiers. On a vu des manifestations, souvenez-vous de ce millier de policiers devant les fenêtres de Christiane Taubira, c'était en 2015. Souvenez-vous surtout de cette très grosse manifestation, il y a longtemps, c'est vrai, un cortège de près de 10 000 personnes après l'assassinat de deux fonctionnaires. C'était à Créteil et c'était, si je ne m'abuse, autour de 2001. Ce genre de rassemblement qu'attendent les syndicats de police, tous syndicats ensemble, et c'est très rare, demain à Paris, entre Bastille et République, c'est encore autre chose, ils attendent vraiment du monde. Cette fois, ce n'est pas un événement qui cristallise la colère, c'est un gros ensemble de choses qui se résume en mots assez simples. Épuisement, exaspération, le signal d'alerte, ce sont les suicides, 51 cette année, mais les policiers parlent de leurs locaux en piteux état, de voitures hors d'âge, d'horaires de travail incohérents, de retard dans les salaires, d'une réforme des retraites qui inquiète. Vient s'ajouter à cela une image qui se dégrade depuis quelques années. Être flic n'est plus un métier qui fait rêver, on l'assimile collectivement aux violences pendant les manifestations de gilets jaunes. Par exemple, policier, c'est devenu un métier de mal aimé aussi, ce qui n'arrange pas ni le malaise, ni ne réduit au contraire les risques psychosociaux. On en parle ce soir ensemble, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Eh bien allons-y, on plonge, c'est vous la première Véronique, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Merci de me recevoir. Voilà, je voulais simplement te poser une question. Donc, les ordres reçus de la hiérarchie des forces de l'ordre émanent du gouvernement. Et ne vont-ils pas à l'encontre, en fait, des motivations pour lesquelles les forces de l'ordre ont choisi ce métier noble, à savoir protéger la population et non le pouvoir? La fatigue des forces de l'ordre ne vient peut-être pas tout simplement de cette contradiction permanente qui doit être épuisante et qui donne une mauvaise image de la police. On voit sur les manifestations de gilets jaunes où il y a violence et il y a débordement. Et moi, je me dis que tout ça n'est pas normal, que j'avais toujours une confiance sur la police. Et ce que je vois à l'heure actuelle, ça correspond pas à la police. Donc, d'où ma question. Voilà, qu'est-ce qui se passe effectivement? Et je trouve qu'ils ont raison de manifester aussi.
Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour votre question, Véronique. Ça nous fait une belle entrée en matière. Ça nous permet aussi de mettre les pieds dans le plat sur un certain nombre de choses pour discuter ensemble jusqu'à 20h autour de ces questions. Christian Moana est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directeur du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, pardon. Fabien Van Emmelric, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général du syndicat de police Alliance, et puis Ariane Grissel est avec nous du service police-justice de France Inter.
Bonsoir
Ariane. Moi j'aime bien la question de Véronique, Fabien Van Emmelric, sur notamment cette contradiction parfois qu'il peut y avoir entre un ordre et un contre-ordre. Est-ce que ce contexte-là, on va le mettre plus généralement, en quoi ce contexte-là appuie encore plus sur la fatigue que revendiquent les policiers aujourd'hui?
Mais je suis pas sûr que ce soit ça qui appuie sur la fatigue. Quel que soit le gouvernement, le fonctionnaire de police est là pour faire appliquer la loi et les règlements et assurer la sécurité des personnes et des biens. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une dangerosité de plus en plus accrue au sein de ces manifestations. L'événement Gilets jaunes, ça fait 6 mois que ça dure. Mais avant l'événement Gilets jaunes, vous aviez eu la loi travail. Et au fur et à mesure des manifestations qui se déroulent, elles sont de plus en plus dangereuses, de plus en plus violentes. Et forcément, pour pouvoir interpeller les individus qui sont dangereux, et encore je le répète, parce que d'après la question de madame, on avait plus l'impression que c'était les collègues qui commençaient à faire peur. Non, les collègues sont là pour rassurer. Par contre, malheureusement, ils doivent aller à l'affrontement pour attraper ces individus nuisibles et qui empêchent les manifestants de manifester pacifiquement.
Mais je le disais tout à l'heure en introduction, il y a un problème d'image aujourd'hui dans la police. Forcément, j'imagine que vous en êtes rendu compte, et forcément ça joue aussi, j'imagine, sur le moral des troupes ou pas, sincèrement.
Je suis pas sûr qu'il y ait un problème d'image. Enfin, nous on pense pas comme ça. Je pense surtout qu'il y a une partie de la population qui a un problème avec la police nationale, mais à travers la police nationale, c'est les remparts de la République, et donc à travers l'état de droit. Et au final, tout ce qui est bon pour critiquer l'institution est possible, notamment sur le terrain avec tous ces individus. Nous, on pense tout simplement que la police est aimée par la population. Il suffisait de voir Charlie Hebdo, hein. On était encore applaudi il y a quelques années.
Et on a l'impression que c'était presque la préhistoire, mais cette relation qu'il pouvait y avoir.
Les gens oublient vite, et par contre, quand ils sont agressés dans la rue, ils sont bien contents de trouver des policiers.
Il y a quand même des policiers qui témoignent et qui disent que leurs enfants n'osent plus dire que leurs parents sont policiers.
C'est un problème, c'est parce qu'il y a une certaine catégorie, nous les premiers, c'est une certaine catégorie de population qui ont du mal maintenant, surtout dans les quartiers un peu sensibles, de dire que son père ou sa mère est flic. Pourquoi ? Parce que la police, dans ces quartiers-là, parce qu'on est sujet à quelques tensions, à quelques interpellations compliquées, c'est très très difficile de dire qu'on est policier. Maintenant, il ne faut pas faire d'amalgame. Les policiers, je pense, sont quand même globalement bien vus. Les policiers sont pas mal perçus partout. Les réseaux sociaux n'arrangent rien, parce que quand on voit une vidéo, on regarde jamais la vidéo entière, on regarde qu'une partie de la vidéo, celle qui arrange justement pour la polémique. Donc non, je pense pas. Aujourd'hui, les policiers sont là, sont bien présents, sont appréciés, et je pense que si on demandait un peu aux manifestants, ceux qui veulent manifester pacifiquement ce qu'ils en pensent, je pense qu'ils en ont plutôt marre de tous ces black blocs et autres qui sont au sein des manifestations et qui les empêchent de manifester.
Christian Moina, sur l'état d'esprit à l'intérieur de la police, selon vous ?
Oui, mais alors, sur justement la question qui a été posée par votre auditrice, c'est quand même intéressant parce que c'est un ressenti et ça correspond exactement à ce qu'on trouve quand on fait des travaux. Il y a maintenant des travaux depuis les années 90, travaux avec interviews de policiers où on va regarder comment ça se passe, etc. Et ce constat d'un divorce entre la police et la population, ça a été fait en 1977 par Alain Perfit, qui n'était pas un gauchiste forcené, issu des minorités ethniques dans les quartiers
sensibles. L'ORTF, on s'en souvient aussi.
Voilà. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que depuis cette période-là, on sent que la police, elle est effectivement happée par des tâches qui lui prennent beaucoup de temps et des priorités qui ne sont pas définies par le public qu'on a en face de soi, mais par des plans nationaux. On n'arrête pas d'avoir des tas de plans, le plan cambriolage, le plan ceci, le plan qui se justifient certainement à une échelle nationale, mais que les policiers ou les gendarmes sont obligés de décliner, même dans des lieux où ils sont pas forcément concernés. Et donc, on a quand même ce divorce, effectivement, non pas entre les policiers et la population, parce que effectivement, la majorité de la population apprécie sa police. Ce qui est vrai d'ailleurs à peu près dans tous les pays développés, sauf qu'on s'aperçoit qu'en France, contrairement à d'autres pays européens notamment, cette confiance, elle a tendance à baisser. Alors, pourquoi ? Eh ben, l'analyse a été faite depuis très longtemps. On a, contrairement à d'autres pays qui ont fait des efforts pour se mettre au service de la population, pour identifier les problèmes de la population et se régler là-dessus, on a toujours une police qui fonctionne de manière très pyramidale, avec un ministre de l'Intérieur, des directions générales qui donnent le là, et des policiers qui cherchent plus ou moins à s'adapter à ça. Avec, je finirai là-dessus, la politique du chiffre, qui est l'expression la plus énorme, la plus stupide, j'allais dire, de ce mode de fonctionnement, qui est, on impose dès le début de l'année combien vous allez arrêter de personnes dans tel ou tel domaine. Ah ben, excusez-moi, je viens déposer plainte, excusez-moi, je peux pas prendre la plainte, parce que sinon, ça me fait baisser mes statistiques.
Juste pour une précision sur ce que vous venez de dire, sur cette baisse, effectivement, mais qui date d'il y a très longtemps, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a jamais de soubresaut, il n'y a rien de conjoncturel, en fait, contrairement à une idée reçue, au fond, et allons-y pour tordre les idées reçues, il n'y a rien de conjoncturel entre la police et la population. On parlait des gilets jaunes à l'instant, mais on parlait aussi effectivement après les attentats de Charlie et même les attentats du 13 novembre où on a vu ces photos symboliques, et ça compte, ces photos symboliques quand même. Donc est-ce qu'il y a des moments qui sont très conjoncturels, ou finalement ça ne se voit pas dans une statistique?
Si on regarde sur le long terme, l'image de la police dans la population, comme je le disais, elle reste toujours au-dessus de 70%, 80%, alors que d'autres institutions sont vraiment très très basses, y compris les journalistes d'ailleurs, mais bon, peu importe.
On en fera un autre téléphone.
Voilà, mais ce qui est important, c'est que durant les attentats de Charlie, effectivement, on a vu une expression d'amour envers la police, mais qui était plutôt le fait de gens qui avaient l'habitude, une minorité de gens qui critiquaient un peu la police sans y être confrontés. Bon, il y avait toujours une minorité très forte qui continuait à détester la police pour plein de raisons, et puis il y a toujours cette adhésion. Avec les Gilets jaunes, ce qu'on voit, c'est que des gens qui n'avaient pas l'habitude d'avoir des rapports, disons, rugueux avec la police, classe moyenne, issue de villes moyennes, etc., ces gens-là se trouvent confrontés avec la police. Et on voit un phénomène qu'on avait un peu senti avant, mais qui devient plus fort, qui est plus les gens sont en contact avec la police, et moins ils ont une bonne image de la police. Et c'est pas des policiers, c'est de la police comme institution. C'est-à-dire qu'on a un problème, non pas de policiers individuellement qui font bien ou pas leur travail, qui sont violents ou pas, selon les personnes, mais d'une institution qui est tournée vers le haut, qui regarde les chefs, qui regarde la hiérarchie,
et qui représente l'État.
Plus l'instrumentalisation de l'État, mais je pense qu'on y viendra.
Gabi, bonsoir. Gabi ?
Oui, oui.
Ah, bienvenue, Gabi, oui. Absolument. On vous écoute, allez-y.
Bonsoir, merci de prendre mon appel. Eh bien, je vais aller dans le sens de votre intervenant dans un domaine différent qui est celui de l'enseignement. Et quand j'entends parler de divorce avec la population, je suis enseignante, je n'irai peut-être pas jusqu'au terme de divorce, mais je crois que la police et l'enseignement, nous sommes confrontés à des problèmes sociétaux de plus en plus importants. Et nous, notre malaise devient de plus en plus important. Malheureusement, les gouvernants n'y font pas trop attention. La semaine dernière, il y a une directrice qui s'est suicidée. Si vous regardez dans les journaux médicaux, etc., il y a de plus en plus de burn-out dans notre métier, comme dans la police. Et nous ne faisons plus le même métier. Depuis quelques années, personnellement, ça fait plus de 40 ans que je suis enseignante, j'ai toujours la même passion, mais je m'aperçois que mon métier a totalement changé et je dirais qu'aujourd'hui, quand monsieur disait tout à l'heure que la population a basculé dans son regard à leur égard, eh bien nous vivons exactement la même chose et je pense que ces services publics mériteraient aujourd'hui peut-être d'être aidé par les gouvernants et je comprends la manifestation qui va avoir lieu. Nous ne pouvons pas parce que je pense que ça ne serait pas compris parce qu'au final, autant on a vraiment besoin de la police.
Vous l'avez déjà fait, Gabi,
oui,
les enseignants.
Oui, mais pas du tout dans les mêmes termes. Si vous voulez, nous sommes plutôt sur des... Nous travaillons sur des programmes, travaillons... Voilà. Mais dire... attention, il y a de moins en moins de jeunes qui veulent devenir... moi, je suis dans le primaire, hein, je parle même pas du secondaire, j'ose même pas y penser d'ailleurs. Mais même nous, dans le primaire, nous sommes maintenant en but à des gens qui réfutent notre potentiel enseignant. Et quand je vois ces policiers qui se donnent à faire lors des manifestations, je comprends qu'à un moment donné, même pendant les Gilets jaunes, ces hommes ou ces femmes, à un moment donné, passent juste à la limite au-dessus, parce que c'est très difficile de résister quand vous avez des entités que vous devez normalement porter à bout de bras et qui finalement ne cherchent vos failles.
Merci Gabi, merci beaucoup. Excellente question Fabienne Rendre-Méléric, parce que quand j'entends ce que dit Gabi, j'entends aussi des choses que je vois dans les revendications qui sont les vôtres. Quand j'entends parler d'un déséquilibre le hiérarchique, cette fameuse structure pyramidale dont on parlait à l'instant, quand je l'entends parler d'une profession qui au fond perd ses bases parce que ce qu'on lui demande de faire ne correspond plus à ce qu'était la motivation pour devenir enseignant là en l'occurrence, mais policier pour ce qui vous concerne. Vous entendez ces similitudes là, mais dans la fonction publique, en fait.
Je comprends tout à fait même son témoignage à madame. Elle vit malheureusement ce que
avec
les collègues
des problèmes de suicide aussi effectivement.
Vivent dans les quartiers difficiles. Ce qui se passe malheureusement à l'école, ça se passe aussi sur la voie publique. Il y a problème, alors déjà de la hiérarchie, il y a un problème de considération, de reconnaissance, de chaleur humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes plus un pion qu'un fonctionnaire de police et vous êtes corvéable à merci, avec aucune considération derrière. Ça, c'est le problème de la hiérarchie, c'est les problèmes de management que l'on rencontre, et c'est malheureusement ce qui entraîne parfois des risques psychosociaux. Mais il y a aussi un problème, et elle l'a dit à moitié, madame, et en tout cas, nous, c'est ce qu'on pense, il y a aussi un problème d'autorité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, derrière tout ça, il y a un sentiment d'impunité. Pourquoi les collègues n'en peuvent plus ? Pourquoi les collègues en ont ras-le-bol ? Parce qu'il faut savoir aussi, c'est un constat, et on parle des événements gilets jaunes, mais c'est quotidiennement et dans tous les quartiers, quand vous interpellez un individu, l'individu, et vous avez même pas fini votre procédure, qu'il est déjà sorti. Quand on nous annonce les gilets jaunes, 40% de prison ferme. Ça, le constat, on l'a fait assez rapidement. Ça, c'est la justice qui l'annonce. C'est faux. 0% d'individus ont été en prison. Le seul qui a été, je termine, le seul qui a été, c'était le boxeur.
Christian Moynat n'est pas d'accord, mais il le dira tout à l'heure.
Voilà. Le seul qui a été, c'était le boxeur. Rappelez-vous, c'était le coup médiatique.
Bien sûr, on se souvient. Ouais.
Il y a juste été le soir pour aller dormir parce que la journée, il pouvait aller travailler. 40% de prison ferme, certes, ont été prononcées. Aucun n'a été en prison. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des aménagements de peine derrière. Et derrière, il y a eu les lois qui ont été créées, qu'on connaît, la loi Taubira, la loi Dati, etc., etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un sentiment d'impunité. Quand vous avez des rappels à la loi, parce que c'est des constats ça, c'est ce qui s'est passé pendant la justice, des rappels à la loi alors que vous pillez un magasin, vous volez, vous brûlez, notamment sur le 93, et que vous avez un simple rappel à la loi, forcément, ça donne qu'une envie, c'est de recommencer. Quand vous avez un individu qui insulte les policiers à Albi, par exemple, c'est pas que dans le 93, et qui dit que 27 policiers suicidés, c'est 27 bon, rien de moins, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire? La justice prononce quoi? Une lettre d'excuse. Vous voyez, on n'a plus de degré. Le degré, il est maintenant au troisième sous-sol, et on ne sait plus la dangerosité de nos propos. C'est-à-dire qu'on peut se permettre tout et n'importe quoi, il nous arrivera, jamais rien. Et dans les écoles, c'est pareil. Je me permets d'être le témoin, parce que dans les écoles, dans les quartiers sensibles, le professeur, et là on dérive, se fait insulter quotidiennement, ne peut jamais riposter, parce que ça sera toujours la faute du professeur, et forcément, quand vous convoquez souvent les parents, c'est leur fils ou leur fille qui ont raison, et le professeur, excusez-moi du propos très vulgaire, est malheureusement un con. Et le fonctionnaire de police, c'est pareil. C'est-à-dire que le fonctionnaire de police, il essaie de mettre les choses en place. Malheureusement, il n'y parvient pas parce que derrière tout ça...
Mais du coup, attendez, parce que ce que vous êtes en train de me décrire, c'est un problème avec la justice bien derrière, qui va bien au-delà de simplement
des policiers et le malaise qu'on a. C'est, vous savez, quand vous interpellez toujours le même individu et que vous l'emmenez au commissariat tous les trois jours et que tous les trois jours, il vous regarde, comme on dit si bien dans le jargon policier, avec la banane et le grand sourire, en vous disant d'une façon ou d'une autre... il va pas m'arriver grand chose parce que le lendemain ou voire le soir même je serai sorti, et forcément ça crée de l'épuisement.
Christian Moina, pour répondre à ce que disait Fabien Van Emmerich, puisque je voyais que vous réagissiez, mais je voudrais qu'on revienne aussi quand même à une partie de la question de Gaby sur les parallèles qu'on peut faire dans certains métiers de la fonction publique et qui surtout sont aussi des représentants de l'État et la manière dont ils sont perçus et traités donc visiblement par la population.
On pourrait faire une comparaison, mais ça nous mènerait très loin sur la façon dont sont gérés tous les services de l'État, les services publics, avec une volonté de privatiser de plus en plus de fonctions, et ça pèse dans à peu près tous les services publics, y compris la police nationale, puisque il faut savoir que les activités de sécurité privée ne se sont jamais aussi bien portées. Je parle même pas des polices municipales. On a 250, 300 000 peut-être, enfin les chiffres varient. Policiers privés ou agents de sécurité privés qui vont remplacer la police. Donc il y a cette première chose. La deuxième chose, c'est une bureaucratisation qui renaît à travers les outils informatiques modernes.
Bureaucratisation, donc déshumanisation, c'est des choses que j'ai lues de certains de vos collègues.
Voilà, s'exprimait sous une certaine forme à l'époque du papier et de la machine à écrire, mais qui s'est renouvelé à travers, les outils statistiques, culture du chiffre, évaluation uniquement à travers les chiffres et la qualité, on verra après si on a le temps. Et puis aussi, tous ces outils informatiques de contrôle, de reporting. Si on parle des policiers, le temps passé par les policiers à faire des comptes rendus, des rapports, des évaluations sur ce qu'ils ont fait quand ils sont sortis 2 heures dans la rue est quand même très important. Et il faudrait dire, il y a aussi beaucoup de policiers qui ne sortent jamais plus dans la rue parce qu'ils sont dans les bureaux. Je comprends, au cours d'une carrière, on peut évoluer, etc. Mais tout ça pèse. Alors quand même, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit sur la justice.
Sur les chiffres.
Sur la justice, quand même.
Je vous ai vu tiquer.
Oui, mais parce que cette critique de la police envers la justice, on l'entend depuis très longtemps aussi. La justice n'a jamais été aussi sévère. On incarcère de plus en plus, les prisons craquent de partout. On a de plus en plus de sanctions qui sont prises, parfois qui ne sont pas exécutées effectivement le lendemain. Mais il y a des gens qui, on sonne chez eux 2 ans, 3 ans après les faits, et ils exécutent leur peine de prison plusieurs mois après, ça arrive. Donc on peut pas évaluer comme ça, au doigt mouillé, le lendemain il est sorti, oui peut-être, mais il y a des choses. Bon, on pourrait discuter très longtemps sur la sévérité, mais juste sur la question de la légitimité et de l'autorité. L'autorité, alors il y a deux façons d'exercer l'autorité, une façon qui est pas de l'autorité, c'est le rapport de force. Tu me respectes parce que tu as peur de moi, parce que j'ai une arme, parce que j'ai ceci, j'ai cela. Et là, c'est en général la course à l'échalote parce que l'autre va s'armer aussi, et c'est un peu ce qu'on voit dans certains quartiers, même beaucoup parfois. L'autorité, c'est pas ça. C'est quelqu'un est respecté spontanément sans qu'il y ait menace parce qu'on estime qu'on a besoin de lui ou parce qu'on estime qu'il y a un rapport qui s'est établi.
Il fut une époque où la position était respect, voilà. Aujourd'hui c'est plus le cas.
Et si on fait de l'histoire, mais pas si ancienne que ça, quand on avait des policiers qui étaient à pied, qui allaient dans certains secteurs, d'ailleurs y compris dans les secteurs difficiles, il y a eu de l'ilotage, il n'y a pas si longtemps que ça dans un certain nombre de secteurs difficiles. On voit comment dans d'autres pays, par exemple, il y a eu des tentatives qui n'ont pas trop mal réussi dans certaines villes américaines où les policiers se font, c'est stupide cette comparaison, mais beaucoup plus tiré dessus qu'en France. Bon, et il y a des endroits où il se passe des choses. On voit qu'en France, toute volonté de réforme dans un sens allant vers ce rapprochement police-population. On pourrait refaire l'histoire de la police de proximité et de toutes ces... ça serait intéressant. D'ailleurs, il y a certains policiers essaient de s'engager pour recréer du lien. Bon, tout ça est passé de mode et finalement, on est uniquement sur un mode de gestion. Alors, on va augmenter les salaires. Mmh. Très bien, pourquoi pas. Mais on voit bien que le problème n'est pas uniquement là, en tout cas, et que il y a globalement cette question qui est pourquoi, moi, citoyen, j'ai envie de respecter ou pas le policier. Mais si le policier ne répond pas aux demandes des citoyens, et on voit comment les plaintes ne sont pas prises dans les commissariats. Je ne dis pas que c'est la faute des individus, encore une fois, c'est l'organisation qui ne marche plus très bien. Et si on ne prend pas ma plainte, si quand j'appelle police secours dans certains quartiers, la police secours ne vient pas, ben forcément, cette légitimité va s'effriter de plus en plus.
Fabien Van Emmerich, avant qu'on retourne au standard, d'abord pour qu'on épuise cette question sur l'histoire de la police de proximité, parce que c'est toujours une espèce de serpent de mer qui dirait ça irait beaucoup mieux si c'était mieux fait. Alors on l'a remise au goût du jour, un peu différemment de ce qu'elle était avant d'être supprimé, est-ce que ça compte ou pas dans...
La police de proximité, ça fait 20 ans qu'on entend la même chose. Ça a été un véritable fiasco. Quand on parle de respect du policier, quand on parle de respect du policier, etc., ce que vous avez annoncé, c'est question d'éducation. À partir du moment où vous avez des bases d'éducation, vous respectez le policier. Nous, tout un chacun, quand on était jeune, on nous a appris ce que c'était qu'un policier, on nous a appris ce que c'était l'État et on nous a appris le respect. À partir du moment où vous avez plus les bases d'une éducation, ça ne fonctionne pas. La police de proximité, on a tout fait. On a eu les UTEC, de l'époque de Monsieur Sarkozy.
C'est pas de la police
on a
de
eu,
proximité.
Mais si, on était dans les quartiers, vous avez parlé d'îlotage, c'est exactement les îlotages dans les quartiers sensibles. C'est ce que vous venez de dire.
Les UTEC,
c'était une catastrophe. La BST, ça a été une catastrophe. Les postes de police brûlaient. Prenez l'exemple de Clichy-sous-Bois.
Oui, mais les BST, c'est pas de la police de
toutes
proximité.
Toutes les semaines, Clichy-sous-Bois, le poste de police.
Dans les détails techniques, c'est pas vrai. La BST était une police de répression.
Attendez, l'un après l'autre.
Si vous arrivez dans les quartiers sensibles à la fleur au fusil, je peux vous dire que vous allez trop sub. Vous savez comment ça se passe dans les cités sensibles? Vous longez les murs pour éviter les murs des immeubles, pour éviter de prendre des frigos, des machines à laver, de l'huile, etc.
Pas les longer. Non, mais le fait est que là-dessus, encore une fois, on ne va pas faire un débat sur la police de proximité, dans mes souvenirs, Nicolas Sarkozy a cette phrase fameuse dont on se souvient très bien. Les policiers ne sont pas là pour jouer au foot avec les gamins ou je ne sais pas quoi, ou l'équivalent, et ils suppriment la police de proximité.
On part du principe, nous en tout cas, notre organisation syndicale, on part du principe qu'aujourd'hui, la police de proximité, excusez-moi de l'expression, c'est complètement has-been. Aujourd'hui, il faut recréer l'autorité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on respectera le policier, à partir du moment où il y aura malheureusement, et c'est le cas de le dire, une phase répressive où radiopolice chez eux, ça sera aussi rapide que chez nous. C'est-à-dire, attention, si tu fais quelque chose, agresser un policier, vandaliser, tu vas être sanctionné, il n'aura plus envie de recommencer et après on peut repasser à la prévention. Mais aujourd'hui, il n'y a plus du tout de repères. L'individu n'a plus de repères et se permet de faire tout et n'importe quoi. C'est ça le souci qu'on a.
Christian Moana, et on retourne au standard juste après.
Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que on pourrait... C'est pas la police de proximité haute, c'est la question de qu'est-ce qu'attend la population des policiers. Et on voit bien comment l'organisation, globalement, ne se la pose plus. Or, auparavant, on avait certains policiers, il y a un mot que j'aime bien, c'est le mot de gardien de la paix. C'était des gens qui faisaient un certain nombre de choses, pas forcément que de la répression, j'allais dire bête et méchante. Et le problème, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on est engagé dans un cycle de répression avec de plus en plus de lois, de plus en plus de pouvoirs donnés aux policiers, de plus en plus d'affrontements, de plus en plus d'armes, et la situation s'améliore pas. On pourrait faire toute la liste, mais et donc est-ce que c'est pas ça la véritable impasse, donc d'être sans arrêt dans la course à la violence?
Vous avez cité tout à l'heure les États-Unis, excusez-moi, en termes de répression, ils sont quand même beaucoup plus costauds que nous, et je pense que la police est beaucoup plus respectée.
Et la violence, non, absolument pas. Je vous invite quand vous voulez.
Et alors ça dépend. Alors on va pas faire une bataille de policiers contre sociologues sur les États-Unis parce que c'est pas vraiment le thème du téléphone sonne de ce soir. Pierre, bonsoir. Allez-y.
Oui, merci de prendre la question.
Allez-y.
Pour rester un petit peu sur le sujet de comparaison entre les grands corps de l'État, depuis une quinzaine d'années, la police et la gendarmerie dépendent du même ministre. Il me semble que ça se passe moins mal chez les gendarmes. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable de rapprocher statutairement les deux corps, et en particulier, bon là je vais être prudent, d'un point de vue hiérarchie, chez les gendarmes il y a des officiers et des sous-officiers, chez les policiers il y a des gradés, des officiers et tout en haut des commissaires qui, me semble-t-il, sont souvent un peu coupés de la réalité.
Fabien, merci beaucoup pour votre question. Fabien Van Helvrick, voulez-vous rentrer dans l'armée? C'est ça le sens de la question.
J'ai rien contre mes collègues gendarmes, mais malheureusement pour eux, ça se passe pas mieux chez eux.
Ouais, j'allais vous dire, est-ce qu'on retrouve évidemment les mêmes revendications?
Ils n'ont pas le droit à la parole comme nous on a le droit au sein de la police par l'intermédiaire des organisations
parce
syndicales.
Parce qu'ils sont militaires.
Après, il y a quand même un point qui cristallise cette rivalité un peu historique, gendarmes-policiers, c'est la question des retraites. Parce que ça, c'est la grande revendication de la marche de la colère. Et le fait qu'on ne soit pas prêt à toucher au statut des gendarmes alors qu'il est envisagé de toucher à celui des policiers.
Exactement.
Créer une grosse colère quand même chez les policiers.
Créer de grosses tensions au sein de notre corps, tout simplement, parce que c'est deux poids, deux mesures. Alors que les gendarmes ont été rassurés depuis plus de 6 mois sur leur retraite et notamment sur leur statut en disant qu'ils seront préservés, les policiers, on attend toujours, malgré les mots de M. Castaner, on attend toujours d'être rassurés. Il n'y a pas de poids, deux mesures.
Il a dit qu'il défendrait jusqu'au bout la spécificité du statut, fermé les guillemets.
Il défendrait jusqu'au bout, c'est pour ça que lors de notre manifestation de demain, on va nous en parler, en tout cas nos propos seront dirigés envers M. Macron, donc le président, parce que l'arbitrage, c'est lui qui le fera. Donc il va être obligé de trancher, il va être obligé de choisir. Le ministre nous soutient, paraît-il. Maintenant, le président devra trancher. Mais je souhaite en tout cas qu'il tranche en notre faveur, parce qu'on aura du mal à comprendre que les gendarmes peuvent conserver leur statut et que le nôtre soit dilapidé.
Vous nous rappelez rapidement comment ça fonctionne, votre statut un peu particulier, avec une annuité de cotisation tous les 5 ans. En gros, une annuité, c'est 4 trimestres.
Exactement. Comment ça fonctionne? Alors pour résumer, pour ne pas rentrer dans les détails, on a 5 ans de bonification. Donc 5 ans de bonification, ce qui nous permet de partir un peu plus tôt à la retraite, parce que malheureusement, vu notre métier difficile, avec des heures variable, jour, nuit, week-end, on ne peut plus courir après le bandit, arriver 60, 65 ans parce que tout le monde n'est pas non plus dans les bureaux. Voilà, on a ce statut-là, on souhaite le préserver, c'est un dû pour nous, on ne l'a pas volé. Il y a le côté létal aussi, c'est important, on est la seule, et c'est pour ça qu'on demande une dérogation, on est la seule institution où on est flic H24, on n'est pas flic que juste pendant nos heures de service. Notre devise, c'est servir en tout temps et en tout lieu. Et un policier doit intervenir en dehors de ses heures de service s'il se passe quelque chose. Et donc, il risque aussi sa vie, sans compter le côté terrorisme qu'on a connu malheureusement à Magnanville, où malheureusement, le collègue peut être menacé. Donc, le côté létal, c'est la seule institution, la seule fonction qui malheureusement subit ça H24. Juste pour ça, le statut de policier doit être sauvegardé.
Mais puisqu'on est là dans les comparaisons, est-ce qu'il y a des choses malgré tout chez les gendarmes qui fonctionnent mieux et vous vous diriez, on pourrait effectivement plutôt adopter ce système-là ou finalement pas du tout?
Mais non, enfin si vous allez écouter
un policier... Je pense aux horaires par exemple.
Mais non,
sont
parce
les
que malheureusement ils subissent la même chose, sauf qu'ils sont
non,
plus...
Non, les gendarmes n'ont pas d'horaire.
Exactement.
Et ils sont obligés de loger sur place.
Vous savez, il y a un facteur qui nous attire notre attention, c'est la passerelle gendarmerie-police, ou police-gendarmerie. Vous avez quelques dizaines de collègues qui veulent aller dans la gendarmerie chaque année. Donc on a le droit à cette passerelle. Les gendarmes, vous voyez, c'est l'autorité, c'est le côté militaire. Ils sont plusieurs centaines à vouloir rentrer dans la police. Donc c'est plutôt comme quoi il y a aussi un malaise chez eux. Manque de chance pour eux, c'est qu'on n'en fournit que 40, 50, 60, parce que en termes d'image vis-à-vis de la gendarmerie nationale, ça laisserait à désirer. Donc, mais le malaise au sein de la gendarmerie est le même que chez nous. Le ras-le-bol des gendarmes, et nous on les côtoie, on leur dit demain vous pourriez peut-être vous syndiquer, et demain on sera là pour vous aussi. Ils vivent la même chose au quotidien, la violence, ils la subissent de la même façon, l'uniforme qu'on veut casser, ils le subissent aussi, les insultes, etc. etc. Donc non, il n'y a pas de guerre de police-gendarmerie, il y a une concurrence qui a toujours existé, qui existera toujours parce que...
Vous regardez les uns les autres.
Exactement. Ouais. Mais en tout cas, sur la difficulté du métier, c'est la même. Sauf que nous, attention à la petite différence, c'est qu'on est confronté régulièrement aux violences urbaines parce que la police travaille quand même beaucoup plus dans les quartiers sensibles, dans les circonscriptions compliquées que nos collègues gendarmes qui sont plus axés sur la campagne, la circulation routière et autres.
Bonsoir Vincent. Vincent, vous êtes là, je vous ai fait patienter 28 minutes, donc si vous êtes parti loin de votre téléphone, je ne peux pas vous en vouloir. Est-ce que vous êtes là, Vincent? Vincent, une fois. Vincent, deux fois. Vincent, trois fois. Bonsoir Théo.
Ah, bon, bonsoir.
Écoutez, je croyais qu'on avait perdu tout le monde. On vous écoute, Théo, allez-y.
Oui, bonsoir. Je voulais simplement... Bon, je sais que c'est un peu hors sujet par rapport à ce que vous venez d'aborder. Simplement, je voulais apporter une contradiction par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure au sujet des manifestations et du comportement des gilets jaunes. Étant moi-même un gilet jaune et enseignant d'ailleurs, je peux témoigner du fait qu'en manifestation, ça se passe pas du tout comme le monsieur l'a décrit. Hein. Alors certes, je ne fais pas partie des gilets jaunes qu'on décrit comme violents ou casseurs, mais néanmoins, ce que je peux dire, c'est que En général, les manifestations dégénèrent parce que la police soit interdit les gens de manifester en les encerclant très rapidement, soit met fin à la manifestation en dispersant avec des gaz lacrymogènes et autres projectiles. Voilà, simplement pour apporter une contradiction à ce qui a été dit tout à l'heure. Voilà.
Merci pour votre question et vous pouvez répondre, Fabien Van Emmelrich. Là encore, on est aussi en train de parler de la perception des gens qui sont dans ces cortèges-là, puisqu'on est revenu là. Si on exclut ceux qui sont habillés en noir, qui sont les Black Blocs, etc., c'est une chose. Il y a aussi la perception de la manière dont la police travaille désormais dans ce genre de cortège.
Alors, on peut percevoir ça parce que malheureusement, on n'a pas une vision globale de la situation. Ouais. Et ce monsieur, s'il est à 2 mètres autour de lui et qu'il voit de la lacrymo et des individus courir partout, c'est sûr qu'il peut se sentir un peu effrayé.
Il parle
et
de
surtout,
l'encerclement.
Si on a des collègues qui commencent à charger et faire un périmètre de sécurité. Mmh. Attention, généralement, l'encerclement, c'est pour stopper une situation et faire en sorte qu'elle évite de dégénérer encore plus que ce qu'elle est. Parce que derrière tout ça, vous avez aussi des collègues qui sont derrière les caméras, qui voient une situation dangereuse qui s'accentue, où il faudra neutraliser certains individus. Et ce qu'on dit à chaque fois, les gilets jaunes, et bien heureusement, vous avez des manifestants qui manifestent pacifiquement et qui sont là pour défendre leurs idées et leur bout de gras. Parce que là, les gilets jaunes, c'était un peu de ça au début. Mmh. C'était leur pouvoir d'achat. Mais on leur dit tout simplement que quand on voit que ça dégénère, quand on voit des Black Blocs, on évite de se mettre autour d'eux. On évite parfois aussi, certains individus le font, c'est sur les caméras, hein, parce que là aussi c'est filmé, on évite de les applaudir et de faire en sorte qu'ils arrivent comme des sauveurs. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une situation qui dégénère, on voit qu'il y a une situation qui est dangereuse. Laissons-nous travailler, laissons-nous en face des Black Blocs et vous verrez que ça sera très vite réglé.
Le après, l'encerclement, pas... il se fait au sens large. Et parfois, dans l'encerclement, il y a aussi des familles,
force,
des enfants, etc., qui sont toujours coincés dans ce cortège.
Exactement, malheureusement, parce qu'il y a un phénomène de foule, parce que ces individus sont des professionnels de la casse et arrivent à s'infiltrer au sein des manifestations. Des fois, on les aide un peu à s'infiltrer. Et forcément, il est très très difficile de les sortir une fois qu'ils sont dedans. Il faut pouvoir les interpeller en amont. Et c'est là que ça se complique, avec les services de renseignement qu'on connaît, etc.
Christian Moina.
Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a effectivement une évolution du point de vue de l'organisation policière, de la gestion du maintien de l'ordre, qui va dans un sens. Alors là aussi, les autres pays européens ont fait beaucoup plus de progrès que nous, puisqu'ils ont affaire aux mêmes Black Blocs, c'est exactement les mêmes personnes qui se déplacent.
Mais pas avec le même sentiment d'impunité.
Absolument, et c'est pas du tout le problème.
C'est ça,
que ils interpellent moins et les manifestations se passent mieux. Pourquoi? On a en France, une tradition de maintien de l'ordre qui était une espèce de co-gestion des manifestations avec des services d'ordre. Alors, il est clair qu'avec les gilets jaunes, c'est compliqué de trouver des services d'ordre. Mais il y a eu toujours cette idée que les manifestations, elles devaient être co-gérées par les policiers et les organisateurs ou les
c'est
gens
plus,
au moins
c'est
qui
posent. C'est plus vrai depuis. Et par ailleurs, ça ne marchait déjà plus pendant la loi travail, de vous à moi.
Et alors, c'est ce que j'allais vous dire. C'est, ça a commencé au moment de la loi travail. Loi travail, il y a une incompréhension du gouvernement de l'époque. On dit, il y a du terrorisme, les gens devraient avoir peur et ils manifestent quand même. Incompréhension d'ailleurs. Qui se répercute aussi auprès d'une partie des policiers. Donc, il y a sans arrêt gérer cette contradiction où on va autoriser la manifestation, on les interdit pas, on leur donne des tracés parfois ridicules, et puis on enferme les gens dans des nasses. Et ce qu'on constate depuis, c'est qu'il y a cette volonté de dissuader les gens de manifester. D'ailleurs, ça a été dit dans un discours d'Edouard Philippe en mars 2019. Il faut que les gens qui manifestent aient peur. Enfin, plus ou moins, le discours disait ça. Donc la difficulté, elle est là, c'est qu'on a encore une fois, une volonté de gérer par la peur, par le rapport de force, et on le voit très bien, parce que plein de manifestations, en fait, les Black Blocs sont au début de la manifestation, et on aperçoit que des charges de police qui se trouvent, ou des encerclements, ou des lacrymogènes, qui sont 500 mètres, 600 mètres, beaucoup plus loin, parce qu'il y a une volonté quand même de disperser les gens, de leur faire peur et de les empêcher de manifester.
Pour répondre à ça, il y a ce mail sur franceinter.fr qui dit, il y en a beaucoup comme ceux-là qui arrivent au standard et qui disent, la police me fait peur, ils sont armés jusqu'aux dents avec des armes de guerre lors d'une simple intervention de la circulation routière. On a l'impression d'être le coupable du siècle, il n'y a aucun discernement graduel dans le traitement des faits. La façon dont les policiers s'adressent aux personnes n'est plus adaptée. Moi, je travaille aux impôts, je ne m'adresse pas aux usagers comme le font les policiers. Si je le faisais, en tout cas, je serais immédiatement sanctionné.
Elle ne doit pas faire assez peur vu tout ce qui brûle autour. Et quand on a changé le maintien de l'ordre, ordre, c'est tout simplement il fallait le rénover, le moderniser. Tout le monde est outré, toute la population d'ailleurs.
Là encore, on parle aussi d'une perception, et la perception c'est important parce que c'est ce qui fait aussi la tenue d'un cortège.
On est d'accord, mais la perception du citoyen, elle a été comment quand on a vandalisé l'Arc de Triomphe? En effet, c'était pas le même maintien de l'ordre. C'était un maintien de l'ordre qui datait depuis de 20 ans. C'était une doctrine du maintien de l'ordre où on était en statique, on attendait de recevoir des pavés pendant plus de 2 heures, où les collègues étaient exacerbés, et on leur demandait de charger 2 heures après, alors tout avait déjà brûlé autour de nous. Aujourd'hui, on demande d'être beaucoup plus dynamique et passer, alors c'est vrai, à un affrontement un peu plus avec rigueur et faire en sorte de stopper les infractions. Mais aujourd'hui,
on a entendu quand même affrontement avec un
peu de rigueur. Il s'agit toujours plus de rigueur.
Pourquoi? Parce qu'en face de vous, vous avez des individus, mais vous êtes obligé de passer à l'affrontement parce que c'est un affrontement.
Bien sûr,
on est en violence urbaine, on n'est
pas avec les autres. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup
d'autres
personnes.
Je crois qu'on n'a pas regardé les mêmes images sur les Champs-Élysées quand tout a brûlé à plusieurs week-ends.
Mais
non, mais les images, c'est ça.
On voit les choses concrètes quand on est dans les manifestations.
Pourquoi tout a brûlé? Parce que malheureusement, les collègues avaient interdiction d'intervenir, et quand on dit avec rigueur, c'est tout simplement que quand vous êtes face à des individus pareils, si vous y allez, encore une fois, l'expression...
Et pourquoi les collègues ne sont pas intervenus? Parce qu'ils avaient l'ordre
de ne pas intervenir. Mais parce qu'ils avaient l'ordre de ne pas intervenir.
On est bien d'accord, et ça, ça pose bien des questions.
De laisser tout brûler.
Ça pose bien des questions. Pourquoi le gouvernement a fait ça?
Je ne veux pas qu'on se quitte avant d'écouter Pierre. Bonsoir, monsieur le commissaire. Ça nous ramènera à notre débat du début. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Voilà, donc juste simplement, j'avoue que j'en ai assez d'entendre les organisations syndicales.
Donc vous êtes commissaire de police, Pierre, que les choses, qu'on sache de vous parler. Voilà, allez-y.
Ouais, non, simplement, je suis toujours très agacé à entendre une espèce de discours permanent qui placerait la hiérarchie toujours loin des réalités. Et ce discours est totalement faux, c'est-à-dire que au quotidien, les commissaires de police sont à la tête de service. Alors, ils font pas le même métier que les gardiens de la paix, les officiers, c'est sûr, mais ils sont au quotidien, ils partagent le quotidien de leur troupe, beaucoup plus que les représentants syndicaux qui, pour la plupart, ont quitté le terrain actif depuis longtemps. Mais... Et en tout cas, ils n'ont pas de leçon à recevoir de légitimité sur le métier de policier. Nous, ce sont nos collègues et on partage leur quotidien et on a une mission commune à rendre.
Mais est-ce que ça veut dire en un mot...
démagogie.
Est-ce que ça veut dire en un mot quand même que parmi les revendications que vous entendez de la part de vos collègues et qui justifient selon eux de leur descente dans la rue, est-ce qu'il y a des choses que vous comprenez et vous vous dites que peut-être à leur place, vous seriez aussi dans la rue?
Non, mais qui alors moi d'abord, évidemment, je partage un constat sur des difficultés qu'on rencontre au quotidien, nous aussi, les commissaires de police, on les rencontre, ces difficultés, évidemment. La question de mon intervention ne concernait que cette espèce de facilité démagogique qui consiste à toujours trouver un ennemi qui serait la hiérarchie, et on retrouve ça dans la littérature depuis Maigret. Le chef est toujours l'imbécile et celui qui est loin d'être des réalités. Alors quand ça vient de mes troupes, ça m'embête, mais quand ça vient des gens à qui je ne travaille pas et qui n'ont pas mis les pieds sur le terrain depuis des années, là, ça m'agace.
On précise juste rapidement que les commissaires manifestent
alors,
aussi demain.
C'est exactement ce que j'allais répondre au commissaire de police, déjà, qui se rassure.
Je ne remets pas en cause.
Si vous le permettez, rassurez-vous, la réalité du terrain, je la connais, parce que moi, ça fait que 6 mois que je suis secrétaire général. Comme quoi, vous voyez, ça se modernise aussi au sein d'Alliance. Il y a eu un certain renouveau, et des collègues qui étaient là depuis 20 ans, ils ne le sont plus, et je suis là. Et le terrain, je le connais peut-être aussi bien que vous. Mais le débat, il n'est pas là. C'est que la manifestation, il y a les deux syndicats de commissaires, parce que vous en avez que deux, et donc ça représente 100% des commissaires, qui seront aussi là à la manifestation, et tous les officiers seront aussi présents. Voilà. Donc comme quoi il y a vraiment malaise, et je pense qu'on est tous d'accord sur le même sujet.
En tout cas, on a compris effectivement qu'il pouvait y avoir malaise, et y compris là avec la hiérarchie. Au moins c'est clair, on va regarder cette manif avec attention demain, en tout cas pour voir combien vous serez dans la rue, et on y reviendra au téléphone sonne à toutes ces questions. Il y a eu beaucoup d'appels comme d'habitude, portez-vous bien, à tout de suite.